Ce podcast est une production Blabla Studio.
Julia donne le ton, le retour, c'est reparti pour une nouvelle saison. Après une grossesse et un bébé, je suis ravie de revenir derrière mon micro pour continuer à vous proposer des épisodes autour des thèmes de l'entrepreneuriat, du leadership, des stratégies commerciales et de communication, de la charge mentale et de la maternité. La petite nouveauté pour ce retour, j'ai envie de parler également aux dirigeants d'entreprise, ceux qui travaillent souvent dans l'ombre, mais qui ont les mains et les cerveaux bien remplis. Vous trouverez donc ici des conversations riches en expérience, en parcours de vie, en conseils professionnels, mais aussi en gestion de vie perso. Je suis ravie de vous retrouver et passer quelques temps avec vous. À présent, place à l'invité du jour. Hello à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui Étienne, l'un des fondateurs de l'entreprise familiale Kerzon, une marque de soins naturels du quotidien pour la maison, le linge et le corps. 10 ans d'entreprise, des valeurs et des engagements précis, une histoire autour du parfum comme Madeleine de Proust et un développement international. Étienne est venu nous raconter comment, avec ses deux frères et sa femme, il prône depuis la création de Kerzon un art de vivre mieux autour de la valeur fondamentale du plaisir et en étant cohérent avec les besoins d'aujourd'hui. Je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute! Hello Étienne!
Salut Julien!
Comment vas-tu aujourd'hui?
Très bien, et toi?
C'est gentil de demander. Très bien aussi, merci beaucoup. En ce 20 février, alors tu es l'un des fondateurs de Kerzon. Une marque donc de lessive, mais aussi de produits de beauté, pour le corps notamment. Est-ce que tu peux me raconter l'origine du projet ?
L'idée est assez simple, c'est qu'avec Pierre-Alexis, mes frères, on avait envie d'un projet. Voilà, c'est pas très original, mais c'était une réalité. Et Pierre-Alexis a une formation, il est directeur artistique. Il a été longtemps freelance pour pas mal de marques dans la mode et dans la cosmétique. Et donc, il a une vraie savoir sur l'image. Et on avait envie d'un projet autour du parfum. Parce qu'on trouve que le parfum est un super vecteur d'émotion et de plaisir. Donc voilà, donc on a développé Kerzon il y a maintenant presque 10 ans, avec cette idée de faire des produits jolis, agréables à utiliser, et agréables par le parfum, par la texture, par...
Par l'émotion.
Et l'émotion que véhicule le parfum. Voilà, c'est un peu cliché, c'est la Madeleine de Proust. Enfin voilà, mais c'est le parfum et l'odorat est l'un des premiers sens qui est développé chez l'enfant. Donc, c'était, on trouvait que c'était un sujet intéressant.
Ah ouais, j'ai appris qu'un enfant pouvait reconnaître sa maman immédiatement par l'odorat et le père, ça prenait un peu plus de temps. Ouais. Mais c'est fou, hein, je trouve. Et tu faisais quoi avant ?
Moi, j'ai un parcours assez classique, école de commerce. J'ai fait de l'expertise comptable, donc gestion d'entreprise. Et après, j'ai décliné vers plutôt du commercial, du conseil en système d'information. Voilà, diamétralement opposé à ce que je fais aujourd'hui, mais aussi une bonne base et un bon socle pour gérer une boîte. Quoi.
Ok. Donc toi, tu t'occupes de quoi, clairement, chez Kerzon aujourd'hui ?
Aujourd'hui, chez Kerzon, ça n'a pas été comme ça dès le début, mais en gros, au départ, avec Pierre-Alexis, lui s'occupait, c'était un peu caricatural, même si on faisait un peu tout ensemble, mais lui, entre guillemets, développait les produits, et moi, je m'occupais de les vendre. C'est un peu caricatural. Et après, on a grossi. Maintenant, je m'occupe plus de la gestion et administrative de la boîte, même si je reste impliqué de façon transverse sur pas mal de sujets.
Ok, bon, on y reviendra après, ton rôle dans l'entreprise, etc., ce que t'aimes, moins. Est-ce que tu peux nous parler des engagements de départ de Kerzon en tant qu'entreprise ?
L'idée de Kerzon au départ, c'est qu'on a un ADN qui est assez clair, c'est-à-dire qu'on voulait une marque qui soit responsable, efficace et plaisir. Alors c'est un peu tarte à la crème, c'est un peu fourre-tout, mais l'idée c'est qu'on voulait avoir évidemment une marque engagée. Donc quand je dis engagée, c'est avec des productions responsables, locales, avec des produits à faible impact pour l'environnement, avec un rôle social évidemment, travailler avec des ateliers de personnes en réinsertion, ce genre de choses. Mais pas que. On trouve que ça c'est un pilier essentiel, mais on voulait surtout des produits qui procurent du plaisir et qui procurent du plaisir par la qualité du parfum, mais aussi par la texture et par la qualité d'usage du produit.
Ça a commencé que avec des lessives, hein, on est d'accord ?
Non, on n'est pas d'accord. L'idée, non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est comme ça qu'on a évolué.
Ouais, exactement. Et c'est vraiment c'est ancré dans ma tête, en tout cas moi, ça a commencé avec des lessives.
Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. En réalité, on a commencé à faire des pochettes parfumées et des bougies parfumées. Et après, on est vite parti sur du parfum corporel, du savon. Et en fait, on s'est rendu compte que, et c'est une idée de Pierre-Alexis, finalement, nos grands-parents, pour laver leur linge, ils utilisaient du savon de Marseille. Savon, Et quand je dis nos grands-parents, C'est vraiment, il y a peu de temps
de ça.
Oui, et donc, on s'est dit, bah, on sait faire du savon. Et nous, on a décidé, tu parlais de notre engagement. L'idée, c'est qu'on fait du vrai savon. C'est-à-dire qu'on saponifie, qu'on met soit de la soude. Enfin, c'est hyper technique, mais c'est ça qui en fait la qualité. C'est-à-dire que c'est, on met de belles huiles qu'on mélange avec de la soude ou de la potasse en fonction si on veut un savon liquide ou solide. Okay. Et on a une réaction exogène qui est ancestrale, qui est le résultat du savon d'Alep. Enfin, ça a des millénaires. Et qui, derrière, font un produit qui est extrêmement agréable à utiliser, extrêmement naturel, et qui est plein de vertus parce que, en plus de laver, ça nourrit, ça hydrate la peau. Donc, on parle vraiment de soins. Et au regard de ça, on s'est rendu compte que pourquoi pas faire de la lessive. On trouvait que c'était la même démarche de fabrication de produits. Et qu'aujourd'hui, on avait identifié que finalement, l'offre était un peu hétéroclite. Il y avait des fabricants classiques.
Oui, qu'on connaît tous.
Qui créent des produits de détergence avec une vision. Et déjà avec des parfums extrêmement crapuleux et addictifs. Et puis, il y avait la Biocoop, qui créait des produits un peu plus naturels, mais qui derrière avait des parfums un peu plus boring. Et en fait, nous, on voulait faire une proposition où il n'y avait pas de concession à faire. On avait un produit clean et qualitatif, avec derrière un parfum crapuleux et addictif. Parce que, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, finalement, l'odeur du propre chez nos grands-parents, c'était l'odeur du savon de Marseille. Alors que nous, à notre génération, ou à la génération de nos parents, c'était l'odeur du propre, c'était du parfum. Et un linge propre pour quelqu'un, c'est un linge qui est parfumé.
Oui,
voilà.
C'est vrai.
Donc okay. Il y a un petit côté déceptif de la lessive bio qui a un parfum moins présent. On a un référentiel et comme on est habitué à avoir ce référentiel de linge parfumé, il y a un petit côté déceptif, quoi.
Mais c'est vrai que c'est hyper ancré, hein. C'est fou comme tu dis dans l'esprit des personnes qu'un linge propre égale un linge parfumé, et voire très parfumé.
Exactement.
Limite, on a envie que ça tienne très longtemps. Et du coup, donc c'est vrai que vous êtes arrivé en quelle année sur le marché de la lessive ?
2017.
Donc vous étiez en face de Léchard, Ariel, Dash qu'on connaît tous et qu'on trouve en grande surface.
Exactement.
J'aime beaucoup l'utilisation du mot crapuleux dans l'odeur. Comment vous avez réussi à prendre votre place sur le marché ? Est-ce que c'était difficile de le pénétrer, entre guillemets ? Alors même si tu me dis que vous aviez votre place entre les deux offres existantes.
C'est jamais facile, mais après c'est beaucoup de travail. Et c'est, en fait, Kerzon s'est développé depuis le début sur un réseau en omnicanalité. Donc ça veut dire qu'on a une boutique rue de Turenne, on a un site internet et depuis le début des revendeurs qui proposent nos produits en France et à l'étranger. Et donc c'est aussi ce réseau de revendeurs partenaires et aussi un super outil pour faire connaître ces produits. Et classiquement, on a un revendeur qui a commencé à vendre nos bougies, nos parfums, nos savons liquides. Il a vu que ça plaisait. Et donc, on lui a proposé de vendre de la lessive. S'il y avait un côté original, tout le monde n'a pas évidemment suivi. Mais c'était un côté différenciant. Et donc, ils sont tous demandeurs de nouveautés. Et donc, ils ont joué le jeu. Et il s'avère qu'on a développé un produit ultra qualitatif avec un parfum hyper addictif. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, nos clients et nos clientes qui utilisent ces lessives et tous nos produits reviennent facilement en acheter. Alors, parce que dès le début, pour revenir sur l'ADN de la marque, c'est qu'on a voulu des produits qualitatifs. Alors, c'est facile à dire, mais l'idée, c'est qu'on est parti sur des parfums extrêmement beaux. Et quand je dis beaux, c'est qu'on est accompagné par des nez qui sont talentueux, qui développent des parfums, mais qui aussi partent de super belles matières premières, des beaux hydrolats, des belles huiles essentielles, enfin des belles matières. Et donc, c'est ça aussi qui fait la qualité d'un produit. C'est que derrière, la composition est extrêmement intéressante, extrêmement complexe et addictive. Et donc, ça fait en sorte que les gens viennent racheter le produit. Et c'est ça que nous, on trouve intéressant. C'est que finalement, évidemment qu'on est une lessive, on est un savon hyper beau, hyper joli. Mais dans le choix d'achat de nos lessives, c'est évidemment que c'est des lessives qui lavent et qui ont une fonction. Mais avant tout, c'est la qualité du parfum qui plaît. Et donc, en fait, on est des parfumeurs qui proposons différentes façons de se parfumer.
Oui, c'est
donc
ça.
La lessive, c'est évidemment un outil pour laver son linge, mais aussi c'est une façon de parfumer ses vêtements, son intérieur, son lit. Enfin voilà, c'est ça,
bien sûr.
L'idée.
Mais et on est avant vous, est-ce qu'on utilisait aussi un nez pour faire de la lessive?
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, on s'est rendu compte que chez les grands lessiviers, en fait, ils accordaient énormément d'importance au parfum qui a été utilisé, et donc ils mettaient quasiment autant de budget à développer un parfum de lessive qu'un parfum corporel, parce qu'ils ont bien compris que le côté addictif de leur lessive, c'est pas je lave plus blanc que blanc, je ne sais quoi,
ouais.
c'est le parfum qui rentre dans les mémoires et qui et finalement rend le côté addictif. Et on a tous le souvenir de rentrer chez ses parents ou dans une maison dans laquelle on est habitué à aller et retrouver le parfum et en fait se rendre compte que le parfum vient majoritairement des draps fraîchement lavés ou du linge de maison. Quoi.
Ok, non, c'est rigolo. Et du coup, vous êtes arrivé sur le marché, c'est la première fois qu'on vendait des lessives, pas dans des supermarchés entre guillemets, non ?
Alors, on n'était pas beaucoup. Il y avait des grands acteurs, comme tu disais. Il y avait la Biocoop et il y avait quelques acteurs. Il y a Francis Curgeon qui avait fait une proposition il y a quelques temps, mais c'était une lessive extrêmement haut de gamme, hyper qualitative, avec des prix très conséquents. Il y avait un acteur américain très présent aux États-Unis qui proposait ça. Et après, il y avait un ou deux acteurs français, mais vraiment pas très répandus, pas très facile à trouver. Et donc, nous, l'idée, c'était de se dire qu'on voulait faire une lessive parfumée et accessible. Voilà, c'est l'idée de la marque de Kerzon, on parlait de l'ADN, c'est qu'on voulait que nos produits soient méga qualitatifs, mais aussi accessibles à un grand nombre. Voilà, et c'est ça qui nous plaisait. Et tu vois, pour l'idée de la lessive, c'est une lessive qui est assez premium, mais l'idée, c'est que finalement, elle est accessible relativement à tout le monde, parce que finalement, même si elle a un coût facial de 22€ pour un litre, en fait, c'est un mois de lessive pour une famille de 4 personnes. Donc, finalement, c'est un choix, c'est un arbitrage dans sa consommation, mais c'est facilement accessible. Et donc, on a une clientèle de gens qui ont beaucoup de moyens, mais aussi de gens qui ont moins de moyens et qui font ce choix que de choisir de la lessive parfumée pour se faire plaisir. Et je fais encore le parallèle avec la nourriture et tout ça, où finalement, tu vas acheter 1 kg de belles tomates en saison à un certain prix, mais qui, parce que tu sais être qualitatif, ou un bon morceau de viande, ou un bon morceau de poisson, et tu vas en manger moins, mais tu vas te faire plaisir, et voilà. Et tu vas faire aussi plaisir à l'environnement. Enfin, c'est aussi la démarche de notre lessive, tu parlais des engagements, c'était aussi de se dire que on peut utiliser moins de lessive, ça lave tout autant, parce que la publicité nous laisse entendre qu'il faut mettre 1 ml de lessive pour laver, alors qu'en réalité, nous, nos lessives, tu mets 1 ou 2 bouchons, et ça suffit, ça fait le job. Et donc, c'est se faire plaisir, et en même temps, faire plaisir à l'environnement. C'est un peu cet équilibre qu'on essaie de trouver.
Une petite question aussi qui me vient en tant que maman d'un jeune enfant encore, parce qu'il va avoir 1 an. On est d'accord que ce qu'on dit toujours, que les parfums, c'est pas top par rapport au bébé. Est-ce qu'on peut les utiliser sur des vêtements d'enfants, du coup ?
Ouais, alors, carrément. Nous, on n'est pas partisans de parfumer les enfants. Enfin, on trouve qu'ils auront bien le temps plus tard de se parfumer. En revanche, le fait de parfumer le linge, c'est quelque chose de complètement... naturel, il n'y a pas de souci. Pour preuve, la Biocoop et des choses comme ça qui aussi sont des exigences qualitatives le proposent. Donc voilà, tout dépend de la qualité du parfum que tu mets. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a la chance en Europe d'avoir une réglementation cosmétique qui est la plus exigeante du monde et il y a des contrôles. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, si on a un usage raisonné et intelligent du produit, si on utilise dans la règle de l'art, il n'y a pas de problème pour l'enfant ou pour l'adulte ou pour la personne. C'est juste qu'il y a une notion d'allergène et il s'avère que il y a des gens qui sont allergiques au gluten, allergiques aux noix, allergiques aux cacahuètes. Et dans les compositions du parfum, il peut y avoir aussi des allergènes. Donc c'est pour ça que c'est le seul risque. Mais après, il n'y a pas d'incompatibilité. Et au contraire, j'ai envie de te dire, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de laver le linge de l'enfant avec du parfum. Ça donne un petit côté cocooning et agréable. Et ça permet de parfumer l'enfant sans avoir à parfumer le bébé. Quoi. C'est ça que je trouve qui est aussi intéressant. Quoi.
Et c'est quoi, du coup, votre claim, vous, en tant que vendeur de bonnes odeurs, entre guillemets ?
C'est un peu prétentieux, mais l'idée, c'est qu'on veut que les gens se fassent plaisir. On est pour un marketing et une écologie plutôt du positif plutôt que du punitif. Hein. Le marketing... de la mauvaise conscience un petit peu en disant il faut un produit sans machin, c'est un peu casse-pied. Aujourd'hui, toutes les marques qui se créent, elles respectent l'environnement. Encore une fois, je te dis, on a une réglementation qui est extrêmement exigeante, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc nous, on est plutôt à se dire, nos produits apportent ça, de ce que le produit apporte. Donc le parfum est un élément essentiel, mais c'est aussi, on parlait du savon liquide, un savon liquide, saponifier dans les règles de l'art, ça va générer de la glycérine, ça va générer des choses qui vont hydrater et nourrir la peau. Donc c'est aussi, quand on parlait de soins, c'est un soin pour le corps, c'est un soin pour le linge. Et c'est ça qu'on trouve intéressant et c'est ça qu'on veut que nos clients retrouvent dans l'utilisation de nos produits.
Et donc tu nous le disais, vous avez commencé par des produits, donc savon, baume à lèvres, parfum, etc. Du coup, ma première question n'était pas la bonne, entre guillemets. Quelle part ça a, chaque type de produit dans votre chiffre d'affaires aujourd'hui ?
Pour répondre à ta première question, l'idée, c'est que l'idée de Kerzon, c'était d'embellir les soins du quotidien. Et donc, embellir, c'était avec des belles matières et du beau parfum. Et donc, pour répondre à ta question, le corps chez Kerzon, le linge et les produits de la maison, c'est 30% à chaque fois. Voilà, on a ce triptyque.
C'est bien équilibré.
Voilà, et on trouve que finalement, on part du principe qu'un soin pour la maison ou pour le linge nécessite autant d'attention et autant des beaux produits que pour le corps. On est habitué à avoir des belles crèmes, de la cosmétique hyper étudiée, hyper propre, hyper travaillée. Et c'est vrai que le soin de la maison ou le soin du linge est encore un petit peu aujourd'hui en retrait dans la qualité par rapport à ce que les autres produits peuvent avoir. Donc il y a une vraie demande aujourd'hui de clients d'aller vers des produits d'entretien de la maison, des produits d'entretien du linge qui soient qualitatifs. Donc autant dans la qualité du parfum que dans la composition.
Et c'est quoi vos futurs lancements ou peut-être un nouveau secteur dans la beauté que vous avez envie d'aller explorer ?
Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de secteurs hyper intéressants. Et donc l'idée, c'est tout ce qui tourne autour du parfum. C'est vraiment que les gens viennent acheter nos produits pour le parfum avant l'efficacité. Enfin, c'est assez intriguant quand on questionne les gens. C'est vraiment, et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand les gens vont découvrir un parfum, ils vont vouloir avoir la brume parfumée, ils vont vouloir avoir le savon liquide, ils vont vouloir avoir le savon solide, la lessive, et donc comme ça, ils ont un peu un total look.
Ouais.
Ça, c'est assez rigolo. Et en contrepartie, il y a des gens qui vont avoir plusieurs de nos lessives, et en fonction de l'humeur du moment, vont un peu avoir un petit bar à lessive, et vont utiliser la lessive Place des Vosges dans certains cas, ils vont utiliser Super Frais dans un autre cas. Donc c'est ce petit choix qui est un peu qui rend le moment de la lessive un peu moins fastidieux et un peu plus plaisir.
C'est
donc c'est ça le. Et donc nous on a envie de se développer dans plein de secteurs. On sait que dans l'univers de la maison il y a encore plein de choses à faire. On sait que dans l'univers du corps il y a aussi plein de choses à faire. Enfin il y a plein de possibilités.
Ouais.
Et donc voilà, c'est ça qui est génial. Il y a pas de frontières.
Oui c'est ça. Et du coup, quand tu regardes le secteur de la beauté, toi, avec ton œil d'expert, quel avenir tu lui prédis ? Je sais que c'est un peu dur comme question, mais...
Je te dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai envie qu'on sorte du marketing de l'angoisse, du marketing de la peur ou de la mauvaise conscience en disant tu as été pendant des années un méchant consommateur parce que tu as pollué la planète en faisant ci, en faisant ça. Maintenant, viens acheter mon petit produit qui sauve la planète. Je trouve que c'est anxiogène et j'ai l'impression que c'est pas ce que les gens veulent. Ils veulent se faire plaisir et nous, on est encore une fois favorables à du marketing et de la communication du plaisir. Et donc, je suis convaincu qu'il y a plein mal de place à prendre sur des produits cosmétiques qui apportent vraiment quelque chose et qui ne soient pas que du marketing, en fait. Voilà.
Nous,
c'est ça, je pense qu'on est allé un peu loin dans le marketing pur et dur. Et donc, il faut des produits qui soient efficaces et qui apportent du plaisir vraiment. Et après, ça, c'est la première chose... C'est la première chose à faire. Et après, je suis assez convaincu d'une nouvelle cosmétique, éventuellement par des compléments alimentaires, par des choses. Enfin, il y a une nouvelle façon de prendre soin de son corps, plus que, en étant hyper caricatural, mais la crème qu'on applique sur la peau, et c'est peut-être un élément important qui continue à résister, mais il y a aussi une façon de prendre soin de sa peau et de se faire plaisir par des produits qu'on peut, par des compléments alimentaires, par une nourriture spécifique, enfin, ce genre de choses. Et aussi... par l'usage de produits pour la maison plus simples, plus propres, qui sont aussi une source de plaisir. Donc la jonction entre la cosmétique, le soin du corps, le soin de la maison, je pense que c'est, on parle de soins, et c'est un tout qui va se développer, je pense. Je pense et je le vois. Il y a une vraie demande.
Quoi. Et d'ailleurs, comment elle est ta cliente de cœur, on va dire cœur de cible ? Je le dis client parce que j'imagine que c'est une femme.
Ouais, alors c'est drôle ce que tu dis. C'est à ma grande tristesse, ça reste. J'ai l'impression que la lessive reste encore la tâche ménagère, encore réservée aux femmes. C'est un peu drôle, mais ça va. J'espère que ça va évoluer. On n'a pas de client. Enfin, on a essayé de pas avoir de client de cible. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que nous, ça nous fait très plaisir d'avoir des gens.
Oui, avec différents moyens.
On a des gens connus, des gens fortunés, qui achètent des beaux produits. Faire un produit de luxe, c'est assez facile, mais on est quand même très contents qu'ils utilisent nos produits parce qu'ils ont accès à une foultitude de produits. Et s'ils sélectionnent nos produits, c'est que nos produits ne sont pas trop mauvais. Donc ça, c'est plaisant. Mais c'est aussi content de voir dans la boutique ou chez nos revendeurs un petit étudiant, une petite étudiante ou quelqu'un qui commence à travailler, qui a ses premiers salaires, qui n'a pas forcément des revenus mirobolants, mais qui fait le choix, comme je disais tout à l'heure, d'aller acheter des produits de qualité parce qu'il y a une vraie promesse. On n'est pas une marque identitaire, on n'est pas une marque statutaire, on est une marque plaisir. Et donc, ils n'achètent pas nos produits parce que pour se faire valoir, ou c'est juste parce qu'ils ont le plaisir d'utiliser. Et ça, c'est pour nous, c'est une vraie, c'est un vrai plaisir, une vraie récompense. Et encore une fois, avec un panel
oui,
de...
Oui, donc là, l'âge, en fait, extrêmement c'est assez large, quoi.
Okay. Et on a une grosse distribution, tu vois, on fait 60% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, et on se rend compte que quand on questionne nos partenaires à l'étranger, bah, y a aussi ce grand écart qui est hyper intéressant. L'idée, c'est que ça soit pour toute la famille, pour tout type de famille, et pour, à tout âge, et ça, enfin, c'est... C'est ça qu'on trouve intéressant.
Et je reviens... j'ai deux questions là, par rapport à ta réponse. La première, je reviens un peu sur ce qu'on a dit précédemment sur les lieux, les points de vente de lessive. Est-ce que l'avenir, c'est pas aussi d'être présent dans des supermarchés très... Genre voilà, les grosses enseignes qu'on connaît tous, pour justement démocratiser encore ce côté lessive, clean, maison, enfin tu vois. Ouais.
T'as hyper raison, c'est des débats qu'on a souvent avec des grands acteurs... type Monop et tout ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui proposent de la lessive et qui proposent une fonction. C'est-à-dire qu'ils vont proposer quelque chose de super encore plus naturel que ce que font les autres ou à des produits. Voilà, c'est... Donc, on propose une fonction où il y a des gens qui proposent des lessives sous forme d'abonnement ou sous forme de tablette ou... C'est un usage et c'est très bien. Ce qu'on propose, c'est une lessive parfumée. Et comme je disais tout à l'heure, les gens qui achètent nos lessives, ils n'achètent pas parce qu'elles lavent plus blanc que blanc ou parce que je ne sais pas quoi. Ils l'achètent parce qu'elle est parfumée. Ouais. Et ils l'achètent aussi quand même parce qu'elle est douce et naturelle. Et ils savent que ça ne va pas attaquer leur linge parce que c'est un sujet aussi important. Mais c'est que finalement, quand tu achètes un petit haut à un prix certain... Eh ben, t'es content de le laver avec une lessive naturelle qui va pas agresser la fibre et qui va la nourrir, qui va l'hydrater. Donc ton vêtement, tu vas le garder encore plus longtemps. Donc c'est aussi un élément qui fait que c'est aussi un truc environnemental et écologique. Enfin, c'est important. Mais pour rebondir sur ta question, c'est que ça, dans un grand magasin, en fait, t'es en facing avec ça et personne ne voit la plus-value. Enfin, quand tu parlais d'Ariel, Ultra, machin, c'est infernal de savoir lequel c'est. Voilà, c'est compliqué. Et donc nous, on sait que finalement, notre clientèle, elle sera perdue au rayon lessive. Oui. En revanche, ce qu'on propose et qu'on a déjà fait avec le printemps de la beauté qui nous a demandé de venir au moment où ils ont relancé la Beautista, ils nous ont donné une descente où on a mis tous nos produits et on leur a dit, bah, c'est au moment où on lançait la lessive, proposez de la lessive. Et donc évidemment que c'était différenciant et audacieux et ils n'étaient pas hyper chauds au départ. Et en fait, ils se sont rendus compte que la lessive était un élément complémentaire du soin et de la cosmétique et qu'ils en vendent. C'est nos best-sellers, enfin, tant que le reste des autres produits. Enfin, c'est devenu dans le top 5 des produits. Et donc, c'est intéressant. Donc, nous, on avait une discussion avec Monop, et adorable, hyper, hyper constructive, il y a quelques temps, où on leur disait, nous, on est hyper preneurs de venir chez Monop parce qu'on n'a pas de snobisme. C'est une belle enseigne, hyper, hyper familiale, hyper avec une super image. Mais... on trouve que c'est plus intéressant et plus audacieux de se dire bah, on a une descente avec nos produits dans le rayon beauté et on met à côté la lessive, c'est un peu perturbant, différent. Et montrer aux gens que tu n'achètes pas une lessive que pour la fonction lessive, tu achètes une façon de te parfumer.
Oui, c'est ça.
Tu vois. Et donc, c'est le prolongement du soin.
Très clair. Et tu nous parlais du coup de 60% de votre chiffre d'affaires à l'étranger. Quel pays
d'ailleurs ? On est dans pas mal de pays d'Europe et après, États-Unis, Japon, Hong Kong, Chine, Taïwan... voilà. Mais parce que depuis le début, on s'est développé, je te dis, en omnicanalité avec des revendeurs et qu'en fait, aujourd'hui, avec Internet, FedEx, TNT, les gros transporteurs comme ça, on peut très facilement exporter ces produits à l'étranger. Donc, c'est facile.
Et si tu n'avais pas été dans des pays étrangers, tu crois que tu as forcément un plafond de verre en France ?
Oui et non. Enfin, moi, je sais pas si c'est un plafond de verre, mais on s'est développé en omnicanalité parce qu'on trouvait que c'était intéressant et que ça permettait pour la pérennité du business d'avoir plusieurs pieds sur lesquels se soutenir. Donc, le web, le retail et le wholesale. Et donc, s'il y en a qui va pas bien, et ben, en fait, il y en a qui prend le relais. Donc, on a vécu crise Covid et tout ça. Ça nous a montré l'espèce de résilience qu'on a quand il y a un secteur qui va, un réseau qui va pas bien, l'autre prend le relais. Okay. Et puis, le fait de bosser sur plein de pays aussi, c'est que tu as des croissances qui sont différentes, tu as des façons de faire qui sont différentes. Et puis, quand il y a un pays qui va moins bien, l'autre peut prendre le relais. Donc, c'est plus par sécurité et développement du business et pérennité qu'on est parti là-dessus. Et puis, c'est hyper drôle et hyper intéressant d'aller d'aller proposer ses produits autre part. Ça a été une raison de voyager, de rencontrer des gens différents.
Ouais, bien
c'est
bien
ça qui est bien.
Sûr.
Et après, il y a des gens qui développent leur business qu'en France et qui font des très beaux chiffres. Enfin, après, tu vois, c'est aussi quelle est l'ambition de... Est-ce que tu veux faire 200 millions dans 5 ans ou une société pérenne sur du long terme. Enfin, tout dépend le positionnement. Mais je ne sais pas si tu as un plafond de verre en France. Non, je ne crois pas. Je pense que... mon avis, tu as un plafond de verre si tu fais que du web, tu as un plafond de verre si tu fais que du wholesale. Je pense qu'il y a un moment, il faut que, même si on est en France, l'omnicanalité pour moi a du sens. Et même s'il y a 10 ans, quand on est parti là-dessus, on était un peu pris pour des boomers has-been parce qu'il fallait faire que du web et nous on faisait du wholesale. Et tu vois, c'était pas. Mais bon, on avait cette conviction. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas forcément eu tort. Mais voilà, c'est le fait d'aller dans plein de domaines différents. Et c'est hyper enrichissant en tant que chef d'entreprise de dire que tu. Les remarques et les clientèles du web viennent alimenter les revendeurs et réciproquement, et c'est un outil de communication, et c'est hyper, hyper vertueux. Quoi.
Trop bien, très intéressant. Revenons un peu à toi. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus gros challenge au quotidien?
Le plus gros challenge, c'est de développer la boîte sereinement et de faire en sorte que les gens avec qui on travaille soient heureux de travailler avec nous. Voilà, donc alors, je ne suis pas le seul, mais il y a cette notion de chef d'orchestre et je travaille avec... de mes frères et ma femme en partie, et donc on a tous comme objectif de faire en sorte que nos collaborateurs soient heureux de travailler, que nos clients soient contents et heureux, enfin c'est aussi élément, et nos partenaires, la boîte avec laquelle on travaille, tous les gens qui travaillent sont, on a envie de les faire grandir et de développer la marque. Donc le challenge, c'est de faire en sorte que la marque perdure le plus longtemps possible et qu'elle rende les gens heureux. Enfin voilà, c'est un petit peu prétentieux, mais c'est un peu le challenge de tous les jours, quoi.
Est-ce que c'est du coup, tu vas jamais me répondre oui ou non, mais bosser avec ses frères et sa femme, est-ce que ça peut être un peu compliqué parfois? Ou après, est-ce que tu as d'ailleurs un autre exemple dans ta vie passée professionnelle où tu n'as pas travaillé en famille et du coup tu peux avoir un petit recul là-dessus?
Ouais, alors j'ai eu avant Kerzon, je travaillais pas avec en famille et c'était hyper intéressant. Nous, on trouve que c'est une super richesse et une super force.
Bien sûr.
Maintenant, il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Et nous, on complexifie les choses, c'est-à-dire qu'on travaille en couple et en plus avec la famille. Donc on fait tous les pères compliqués. Mais encore une fois, c'est pour nous, on voit ça comme une force, un intérêt. Et alors, le défi, c'est de faire attention de préserver. Les relations familiales et les relations professionnelles, mais nous ça a jamais vraiment posé de problème. Enfin, pour nous j'ai envie de te dire c'est pas un sujet. Mais
non,
je sais
génial.
Que ça peut l'être pour plein de gens. Et je suis pas en train de dire que nous avons raison et que les autres ont tort de pas le faire. C'est pas un sujet quoi.
Ouais, c'est que vous devez avoir des caractères qui fixent, qui matchent hyper bien.
Carrément.
Du coup, c'est quoi la partie de ton job que t'aimes le plus?
Ce que je trouve le plus intéressant dans cette histoire, c'est la variété des sujets et des missions. Et donc, c'est plein de rencontres différentes, traiter plein de sujets. Enfin, le côté, comme je disais, le fait d'avoir une mission transverse aujourd'hui, c'est ça qui est, je trouve, le plus intéressant du développement des produits, de la communication, du commercial. Enfin, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. C'est ça que je trouve le plus cool. C'est ça que je trouve cool dans la gestion d'une boîte, c'est ce côté transverse qui est vraiment passionnant.
Et ce que t'aimes le moins?
L'administratif, enfin tu vois, enfin voilà, payer les factures, faire la je fais pas la compta, mais toi payer les factures, gérer l'administratif, c'est ça qui est le plus compliqué, enfin que je trouve c'est important, mais que je trouve le moins intéressant, quoi.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais en même temps, est nécessaire et essentiel parce
qu'on a le nez
dans les chiffres, on a le nez dans tout ça, et donc ça permet aussi de se rendre compte qu'on est...
Prendre des décisions,
exactement.
Et alors, la dernière question du podcast, c'est toujours, est-ce que tu peux nous citer la plus grande réussite de ta vie?
La
tout
plus
confondu.
Grande réussite de ma
Pro,
vie, tout,
perso.
Ben, c'est forcément mon mariage et mes enfants. Voilà. C'est un peu cliché, mais c'est vrai.
Parce que j'ai toujours cette réponse, et tout le monde dit que c'est cliché, mais du coup, j'aime bien.
Ouais, c'est ça, c'est les fondamentaux, enfin, c'est la famille.
T'as combien d'enfants?
J'ai 3 filles.
3 filles, ah, bah, dis donc.
Et un petit.
Trop mignon. Trop bien. Merci beaucoup, Étienne.
Je t'en prie. Merci,
Julien. Et je mettrai toutes les infos donc, sur la marque, le site, où on peut la retrouver en légende de cet épisode.
Et ben, c'est super. Merci, Julien,
pour l'accueil. Merci de m'avoir accordé quelques minutes pour écouter cet épisode. N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant autour de vous, en laissant un commentaire ou en m'écrivant en privé, ça me fait tellement plaisir. Je vous envoie plein de courage pour votre journée et à très vite pour un nouvel épisode.